Chers amis, chers camarades, après l'élection municipale de mars dernier, Lutte ouvrière est également présente dans les élections européennes du 25 mai prochain. Nous présentons des listes dans 7 circonscriptions de métropole, mais aussi avec nos camarades de combat ouvrier, dans la 8e, composée des différentes régions et territoires d'outre-mer. Ces vastes circonscriptions regroupent chacune plusieurs actuelles régions administratives. Inutile de dire qu'elles sont le fruit de découpages artificiels, calculés par les politiciens au mieux de ce qu'ils ont considéré être leurs intérêts. Ainsi, la circonscription qui nous concerne, et dont je suis tête de liste, s'appelle Massif Central Centre. Elle comprend l'Auvergne, le Limousin et le Centre. Ça va donc du Puy-en-Velay à Limoges, de Bourges à Orléans ou d'Aurillac à Chartres, en passant par Clermont-Ferrand. Le comble est atteint avec la circonscription 8, qui, comme je l'ai dit, concerne l'outre-mer et qui va des Antilles à l'île de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon à la Nouvelle-Calédonie. Les électeurs de ces régions vont voter pour des candidats qui habitent à des milliers de kilomètres de chez eux. C'est cela que les politiciens appellent sans rire « rapprocher les électeurs de leurs élus ». Bien entendu, pas plus que les précédentes et pas plus qu'aucune autre élection, les élections européennes ne changeront quoi que ce soit au sort des classes populaires. Il faudrait être naïf pour penser le contraire et roué comme un politicien de la bourgeoisie pour tenter de le faire croire. Mais c'est pourtant bien tout ce que les dirigeants des partis politiques nous assènent sans cesse, et notamment ceux de gauche. Rappelez-vous leur slogan de la campagne des élections présidentielles « Le changement, c'est maintenant ». Un slogan propagé par le Parti socialiste, mais aussi cautionné par le Parti communiste et le Front de gauche de Mélenchon, qui ont dit que c'était important, qu'il fallait battre la droite, chasser Sarkozy en votant Hollande au second tour. Maintenant, Hollande a pris la place de Sarkozy à l'Élysée, et c'est pire encore. C'est pire parce que, dans cette période de crise, la bourgeoisie mène une véritable guerre sociale et économique à la classe ouvrière pour maintenir des profits maximum. Et dans cette guerre, tous les gouvernements qui se succèdent sont aux ordres de la bourgeoisie. Oui, après la raclée électorale du Parti socialiste au municipal, Valls a pris la place d'héros. Dans la continuité de la politique menée par héros, Valls mène une politique de combat contre les travailleurs, contre les classes populaires. La différence, c'est que la politique anti-ouvrière sera plus dure encore et qu'elle est plus brutalement revendiquée. Alors bien sûr, beaucoup de travailleurs, beaucoup des nôtres, sont désemparés par l'avalanche des coûts reçus et des coûts annoncés. Beaucoup sont dégoûtés, déboussolés de voir la gauche gouvernementale défendre une fois de plus les seuls intérêts des classes riches. Ils l'ont manifesté au municipal en s'abstenant massivement. Cette abstention a été une façon de protester, mais s'abstenir, c'est se taire, c'est laisser le terrain à nos adversaires. Et l'abstention de cet électorat de gauche a été récupérée par la droite, qui a revendiqué la victoire municipale alors qu'elle n'avait pas vraiment progressé. Aujourd'hui, les capitalistes tiennent le haut du pavé, et pour nous imposer toujours plus de sacrifices, leurs serviteurs gouvernementaux sont droits dans leurs bottes, comme le disait le Premier ministre Juppé à la veille des grèves de 1995, qui l'obligèrent à démissionner. Mais n'oublions pas que tous ne sont forts que de l'absence d'opposition réelle et qu'ils changeraient de ton pour peu que la classe ouvrière commence à se faire entendre. Alors pourquoi se taire? Puisqu'à l'occasion des élections européennes, on nous donne la parole, profitons-en pour dire clairement ce qu'on pense. Voter Lutte ouvrière, affirmer dans ces élections européennes qu'il existe un courant représentant une opposition ouvrière aux politiciens de gauche, de droite et d'extrême droite, une opposition ouvrière à la bourgeoisie, ce sera la seule façon de protester clairement, et cela sans que nos votes ne soient récupérés. Bien sûr, le Parlement européen n'est qu'une machine à parlotte au service des bourgeois. Les décisions se prennent dans les conseils des ministres de chaque pays pour mener partout la même politique. Le sort des classes populaires de l'Europe ne dépend pas de ces marionnettes dévouées aux intérêts des plus riches. mais dépendra de la capacité de la classe ouvrière à intervenir sur la scène politique avec ses propres revendications. À l'échelle de l'Europe, les travailleurs partagent un sort commun. Ils partagent l'exploitation par les mêmes capitalistes et banquiers et ils subissent la même politique anti-ouvrière de la part de leurs gouvernements respectifs. Oui, nous sommes tous attaqués de la même façon et les travailleurs doivent protester, profiter de toutes les occasions pour s'exprimer. Une campagne électorale, c'est justement une de ces occasions. S'il y a une unité qui existe aujourd'hui pour les travailleurs d'Europe, c'est bien l'unité dans l'exploitation. Certes, il y a des différences entre les pays membres de l'Union. La situation de la France, longtemps puissance coloniale, est difficilement comparable à la pauvreté qui règne en Roumanie ou en Bulgarie. Mais partout, c'est l'accroissement de la misère, du chômage. En Europe, il y a, selon les chiffres officiels de 2013, plus de 26 millions de chômeurs recensés, c'est-à-dire qu'en réalité, il y en a largement plus. Eh bien, ça correspond à la population de la Belgique, du Portugal et de l'Irlande réunies. Partout, on voit aussi la liquidation exigée par le patronat et exécutée par tous les gouvernements des quelques protections sociales qui subsistent encore. Partout, les travailleurs d'Europe subissent la même politique désastreuse. En Grèce, trouver un emploi est une mission quasi impossible. Plus d'un jeune sur deux de moins de 25 ans est au chômage. Une offre de l'OTE, un organisme de télécommunication de 390 emplois de vendeurs et de techniciens payés au salaire minimum, 580 euros brut, a vu affluer 18 000 candidatures. Médecins du Monde redoute une crise humanitaire car 30% des Grecs, soit 3 millions de personnes, ont perdu leur sécurité sociale. En Espagne, les ONG parlent de naufrage social depuis 2008. Là aussi, 3 millions de personnes vivent avec moins de 307 euros par mois et 13 millions sont en situation d'exclusion sociale, soit plus de 28% de la population. Il y a 200 000 familles dont aucun membre ne travaille et qui vivent avec les 400 euros mensuels d'aide sociale. Avec cet argent, il est évident qu'une famille ne peut pas faire des achats normaux, ce qui fait que les cantines scolaires deviennent le seul endroit dans lequel beaucoup d'enfants mangent de manière correcte des produits de qualité sous contrôle nutritionnel, explique un coordinateur de la Croix-Rouge de Catalogne. Et d'ajouter que 7 familles sur 10 en situation de risque d'exclusion ne peuvent garantir une alimentation saine à leurs enfants à la maison et que 38% des familles ne peuvent pas payer la cantine. Pas surprenant dans ces conditions que la Croix-Rouge alerte sur la situation des enfants qui subissent des problèmes de malnutrition. Il est également question de problèmes de carence alimentaire au Portugal. Et même en Allemagne, la principale puissance économique du continent, au nom de la compétitivité, les plus riches s'enrichissent pendant que le nombre de travailleurs pauvres grimpe en flèche et que la précarité explose. Tandis que le gouvernement a osé, il y a déjà plusieurs années, introduire des jobs payés à 1 euro de l'heure. L'introduction d'un SMIC pour la première fois dans ce pays qui n'en avait pas fait hurler un certain nombre de patrons, alors que, quand il entrera en vigueur en 2007, il ne sera que de 8,50 euros de l'heure brut, soit moins que le SMIC en France aujourd'hui. Oui, de part et d'autre de cette Europe, les travailleurs subissent à un degré ou à un autre la même politique. Chômage massif, augmentation des impôts, réduction des indemnités chômage, des pensions de retraite et des dépenses de santé, attaques sur les salaires. Et ils vivent tous une aggravation des conditions de travail par les mêmes trusts industriels. Alors dans le camp des travailleurs, le même problème se pose d'un bout à l'autre de cette Europe. Comment se défendre ? Comment ne pas subir le chômage ? Comment éviter de sombrer dans la misère ou la déchéance ? Le capitalisme, c'est une guerre constante que mène la bourgeoisie contre la classe des travailleurs, afin de tirer du profit de l'exploitation du travail. La crise, cela aggrave et exaspère cette guerre. Une guerre entre capitalistes rivaux pour s'accaparer les marchés. Une guerre au cours de laquelle les plus puissants dévorent leurs concurrents qui le sont moins. Mais c'est d'abord et surtout la guerre des capitalistes pour maintenir et accroître leurs profits malgré le ralentissement des affaires et au détriment des travailleurs. Les armes de cette guerre, ce sont les licenciements, l'intensification de l'exploitation, la précarisation des emplois et la baisse des salaires. Les armes de cette guerre, ce sont aussi la pression mise sur les États pour que leurs moyens soient davantage encore drainés vers les entreprises, c'est-à-dire vers leurs actionnaires, au détriment des services publics et du salaire différé que constitue la protection sociale. Eh bien, ne soyons pas, nous, les travailleurs, les seuls à nous soucier du prétendu intérêt national, comme nous y invitent tous les grands stratèges de la gauche réformiste, politique ou syndicale. Nous n'avons que nos emplois et nos salaires pour vivre. Nous ne sommes en rien responsables de l'organisation du système ni de sa faillite. Alors le problème n'est pas de savoir quelle politique suggérer au patronat et à ses serviteurs gouvernementaux. Nous devons au contraire avoir bien en tête que notre richesse à nous les travailleurs, c'est notre emploi et le salaire qui va avec. Et c'est cela qu'il faut défendre ouvertement, clairement face au patronat et à ses serviteurs qui mettent en avant l'intérêt de l'entreprise, de la région ou de la nation pour nous détourner de nos véritables besoins. C'est pourquoi Lutte ouvrière met en avant un programme qui se fixe pour objectif l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous avec un salaire qui permette de vivre décemment. Voilà ce que nous avons l'intention de dire et surtout de donner la possibilité aux travailleurs conscients de le dire avec nous. Les élections européennes sont une occasion de plus pour les politiciens de la bourgeoisie de nous expliquer que nous sommes tous dans le même bateau, qu'il faut sauver les entreprises. Mais une entreprise, c'est un propriétaire possédant d'un côté et des salariés qui triment de l'autre. C'est un patron et des actionnaires à un bout et des travailleurs à l'autre bout. Sauver les uns, c'est forcément écraser les autres. Protéger les profits des détenteurs de capitaux, c'est inévitablement augmenter l'exploitation des ouvriers et des employés. C'est toujours au nom de l'entreprise que les patrons décident de fermer des usines ou de licencier. C'est en ce nom qu'ils baissent les salaires, soi-disant parce que la concurrence le leur impose. Et le maître mot au nom duquel on devrait accepter tous les sacrifices, c'est la compétitivité. Mais pour un patron, être compétitif, ce n'est rien d'autre que regorger de profits et écraser le voisin. Et pour cela, payer moins les ouvriers, les faire travailler plus et plus dur. Pour échapper à cet engrenage, le monde du travail doit acquérir la conscience d'appartenir à une classe sociale avec des intérêts diamétralement opposés à ceux de la bourgeoisie. Face à la bourgeoisie, il faut que se développe la conscience d'appartenir au camp des travailleurs. Dans cette élection européenne, on va aussi entendre décliner sur tous les tons que pour qu'on puisse se sortir de la crise, il faut que l'on se protège du voisin, du travailleur voisin, et qu'on devienne compétitif pour éviter que le travail ne parte chez lui. Depuis le temps qu'ils nous font ce chantage à la concurrence, à la compétitivité, la population travailleuse s'appauvrit, et seuls les plus riches, les capitalistes, s'enrichissent sans cesse. Eh bien, n'oublions pas que dans toute guerre, fût-elle économique, où des travailleurs se laisseraient entraîner à prendre pour cible d'autres travailleurs au prétexte qu'ils n'ont pas le même statut, qu'ils ne sont pas de la même nationalité ou de la même origine, il n'y aurait que des vaincus dans les rangs des travailleurs, de tous les travailleurs. Quelles que soient leurs différences de statut, d'origine, de nationalité, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne le soient pas, les travailleurs n'ont pas d'ennemis, pas de concurrents au sein de leur camp, de leur classe sociale. Ils n'y ont que des frères de classe, que des alliés potentiels. Les travailleurs n'ont qu'un ennemi, il est dans leur pays, c'est la classe des capitalistes et en premier des capitalistes français. Le camp des travailleurs, c'est celui de millions de salariés, de chômeurs, de retraités qui ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés pour vivre. Chaque fois que cela est possible, et les élections en donnent la possibilité, il faut que l'on voit et que l'on entende les revendications du monde du travail. Parce qu'il n'est pas tolérable de supporter le fléau qu'est le chômage et qui ne cesse de s'amplifier, il est nécessaire pour les travailleurs de prendre le mal à la racine en revendiquant l'interdiction des licenciements. Les principaux pourvoyeurs de chômage, ceux qui licencient par centaines de milliers, ce ne sont pas des petites entreprises du coin, mais des groupes capitalistes richissimes. Prenez l'exemple ici des travailleurs de chez Madrange. Ils en sont au troisième plan social. Cette fois, ce sont les travailleurs des entreprises sous-traitantes, les 136 des osseurs, qui risquent de perdre leur emploi, ainsi que 36 salariés de Madrange et 6 intérimaires. Les employeurs continuent à licencier comme ils veulent, pour toujours plus de profits. La patronne, Monique Pifot, a vu sa fortune personnelle grimper l'an dernier de 220 millions à 380 millions, soit plus 72%. Eh bien, la mesure de bon sens qu'il faudrait imposer à cette patronne, comme à tous ses semblables, serait en priorité de lui interdire de licencier. Il serait nécessaire de contraindre le patronat à prendre sur ses profits, qui devraient servir à sauver les emplois, puis de leur imposer de répartir le travail entre tous. Cela coûterait de l'argent ? Certainement. Mais à quoi servent les milliards engrangés par les patrons d'année en année ? Ne serait-il pas plus utile à protéger les travailleurs de la misère ? Bien sûr que si. Les travailleurs ont le droit de dire que sans eux, l'économie ne marcherait pas du tout. Pour changer notre sort, il faudra s'en prendre aux véritables décideurs, aux capitalistes, à leur profit, à leur fortune personnelle, si cela est nécessaire, pour garantir le droit à la vie des travailleurs. Une autre mesure qu'il faut mettre en avant concerne les salaires et les pensions. Tout augmente. Et les mesures du Premier ministre Valls vont encore aggraver notre situation. 10 milliards supplémentaires sur l'assurance maladie, même opération sur l'assurance chômage et les retraites complémentaires. Le gel des prestations sociales, retraite, famille et logement aggravera la pauvreté qui monte. En prolongeant le blocage des salaires de plus de 5 millions de fonctionnaires de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux, Valls s'en prend à une catégorie importante du monde du travail. Et c'est dans ce contexte que la campagne du patronat pour baisser les salaires bat son plein. Avec entre autres les propos de Gattaz, le président du MEDEF, remettant en cause le SMIC. Alors si nous ne voulons pas être réduits à la misère, il faut revendiquer une augmentation générale des salaires et des pensions, mais pour nous protéger contre la hausse des prix, seule l'échelle mobile des salaires et des pensions serait une mesure efficace. Oui, il faudra imposer que les salaires et les pensions suivent la hausse des prix. Et pour s'en prendre au patronat, pour le contraindre, il sera aussi nécessaire de contrôler les entreprises et de connaître la vérité sur ses agissements financiers ou même sur ses plans d'action. Regardez ce qui se passe ici pour les travailleurs d'Altia. Ces 10 dernières années, dénommés tour à tour Wagon, Sonas, Alberg, Altia, ils ont été vendus et revendus à une pléiade de repreneurs. Et à chaque cession, des dizaines d'entre eux ont été mis sur le carreau. Leurs patrons successifs, eux, sont partis avec de quoi recommencer leurs juteuses opérations. Aujourd'hui, ils sont en redressement judiciaire. Les principaux donneurs d'ordre sont PSA et Renault, qu'Altia approvisionne notamment en châssis. PSA et Renault ont déclaré avoir besoin de la production des usines Altia. Ils ont accepté de mettre la main à la poche pour que les salaires des derniers mois et que les fournisseurs soient payés. Mais aujourd'hui, les salaires sont de nouveau en retard et les travailleurs espèrent que la nomination d'un administrateur judiciaire permettra qu'ils soient rapidement versés. Quant à la suite, ils s'attendent bien sûr à un nouveau plan de licenciement. Alors face à ces agissements, il faut revendiquer que la loi cesse de protéger le secret des affaires et que tout puisse être divulgué publiquement afin que les travailleurs soient en capacité de réagir avant que les coups ne pleuvent. Oui, nous défendons le contrôle des travailleurs et de la population sur tous les rouages de l'économie. Bien sûr, ces revendications ne s'imposeront que quand la classe ouvrière, consciente de ses intérêts et déterminée, aura repris le chemin des luttes. Mais aujourd'hui, il est à notre portée de faire entendre ces revendications, et notamment au travers des élections. Pour qu'on n'entende pas dans les médias uniquement les porte-paroles des riches, des bourgeois, des patrons, de nos exploiteurs, Il faut que les exploités prennent l'habitude de se faire entendre, eux aussi, qu'on parle des exigences du monde du travail. Se prononcer pour un programme de défense des intérêts vitaux des travailleurs, relever la tête, ce n'est certes pas encore se battre, mais c'est faire un pas important dans cette voie. Car il ne suffit pas que les travailleurs soient écœurés par la situation, et ils le sont. Il faut que la conscience de notre force collective renaisse, que la classe ouvrière identifie clairement les responsables de sa situation, que les travailleurs sachent qui il faudra viser quand la détermination sera suffisante pour engager la lutte. Il faut qu'ils sachent aussi quel programme mettre en avant, qui soit de nature à changer vraiment notre sort. Il faut qu'ils sachent encore sur quelles femmes et sur quels hommes et sur quelles organisations ils pourront compter pour mener à bien leur combat. Eh bien, les élections, qui sont un combat politique, peuvent contribuer à tout cela. Nous participons aux élections pour proposer à notre camp un programme de défense de ses intérêts vitaux. Mais c'est en tant que communistes révolutionnaires que nous le faisons, car il y a des valeurs que nous tenons à défendre. Hollande a certes remplacé Sarkozy, mais le changement n'a été qu'apparent. Le pouvoir économique et politique reste aux mains des capitalistes. Et ce n'est pas en s'abstenant qu'on fait le meilleur choix. S'abstenir, c'est une façon passive de dire qu'on est écœuré, dégoûté par les politiciens de tous bords. Mais c'est tout ce que cela dit, et ça ne gêne pas les bourgeois. Le système électoral est organisé par ceux qui gouvernent de manière à ce qu'une alternance puisse succéder à une autre, alors même qu'une partie importante des électeurs ne vote pas. Les dirigeants politiques se moquent de l'abstention. Ils jouent leur petit jeu électoral. Eh bien, une des solutions dont les travailleurs pourraient s'emparer pour perturber ce petit jeu des politiciens serait de voter clairement contre ce gouvernement anti-ouvrier sans que la droite et l'extrême droite puissent ne s'en enorgueillir, c'est-à-dire voter pour lutte ouvrière. Aucun politicien de droite ou d'extrême droite ne sortirait renforcé d'une élection si une partie importante des travailleurs votait pour faire entendre le camp des travailleurs, pour dire clairement qu'ils ne se résignent pas au chômage, au bas salaire et au licenciement. Si une catégorie sociale a bien le droit de vivre, c'est celle des producteurs, qui sont utiles et majoritaires dans la société. Saint-Simon, un des premiers socialistes du XIXe siècle, tenait dès son époque le raisonnement suivant. Imaginez que la société perde d'un seul coup tous ses dirigeants, capitalistes, banquiers, propriétaires, officiers, conseillers d'État, eh bien le monde tournerait quand même. Supposez maintenant que la société perde subitement une partie importante de toutes les catégories de travailleurs, des maçons, des infirmières, des ouvriers d'usine, des électriciens, des employés de banque, des postiers, des chauffeurs, des instituteurs, des ingénieurs. Alors la société, privée des plus essentiels de ses producteurs, ne fonctionnerait pas tant qu'elle n'aurait pas réparé cette perte. Oui, si personne ne travaillait, comment ferait-il pour vivre tous ces capitalistes et banquiers? C'est pourquoi les travailleurs ont le droit moral de défendre leurs revendications, de les exiger pour ne pas sombrer dans la mendicité. La classe ouvrière, c'est d'abord l'unité des travailleurs par-delà les frontières. Ce qui unit les travailleurs de tous les pays, c'est l'exploitation par les mêmes exploiteurs. Les travailleurs d'un même grand groupe capitaliste sont exploités par le même patron et ils ont intérêt à trouver les moyens d'agir contre lui de manière collective. Aujourd'hui, quelques milliardaires disposent de la vie de millions de travailleurs. Selon un rapport publié récemment par une ONG, les 67 personnes les plus fortunées du monde possèdent autant de richesses que les 3,5 milliards les plus pauvres. Et ils étaient 85 en 2013. Oui, c'est intolérable qu'une minorité de capitalistes décide des destinées de la société. Autrefois, il y avait les nobles, les seigneurs, les rois. Eh bien, cela a peut-être duré longtemps, mais ça a fini par une révolution. Aujourd'hui, c'est la noblesse d'argent qui regroupe les capitalistes et les banquiers à laquelle il faudra ôter le pouvoir. Dans la perspective de ces futurs combats, nous voulons lever le drapeau de l'émancipation des travailleurs, c'est-à-dire le drapeau du communisme, la seule voie pour que s'émancipe non seulement la classe ouvrière, mais l'ensemble de l'humanité. Notre conviction dans cette perspective communiste est profondément indissociable de nos convictions internationalistes que les élections européennes nous offrent justement l'occasion d'affirmer. Alors, camarades et amis, le 25 mai prochain aux élections européennes, votez et faites voter pour les listes lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs et pour évoquer ces perspectives plus générales concernant l'avenir de la société. Je passe la parole à Nathalie Arthaud.